Voilà. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
No, wounded, sir.
Get it easy.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filomena.
Filomena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che fisso? Ma che fisso?
Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles du vendredi, émigrés, réfugiés, échappés d'un autre temps ou d'un autre monde. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être, comme toujours, en excellente compagnie avec Mathieu. Salut Mathieu.
Salut.
Olivier.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Olivier. Et Sylvain à la réalisation.
Salut, salut.
Salut Sylvain. Au programme de ce Cinémascope, trois films, Green Border, Bullitt et Le Dernier Jaguar. Eh bien, on commence tout de suite, on se met les mains dans le vif de l'actualité aussi.
$300 now.
What is it?
We're in Poland! We're in Europe! We made it! Sir? Water?
We are in Poland. We made it. Nous sommes en Pologne, on l'a fait, ça y est, on est arrivé. Parole de Syrien, arrivé sur
Afghan.
Celle-là.
Oui.
D'accord. Arrivé donc sur le sol européen. Green Border, c'est un film de Agnieszka Holland, à qui on doit notamment L'ombre de Staline. Rimbaud Verlaine aussi, avec Leonardo DiCaprio à l'époque.
J'ai pas vu, paraît-il, c'est très intéressant. Ouais.
Ouais. Europa en 90. Oui. Et un film pour toi, je ne sais pas si tu sais, Olivier, un film qui s'appelle Olivier.
Ah non, je sais.
Eh bien oui.
Ah, c'est vrai.
Mais oui.
Ah
ouais.
Les gens ont du temps à perdre quand même.
Olivier. Et elle a réalisé aussi, ça c'est assez étonnant, des épisodes de The Wire, House of Cards. Donc vraiment une réalisatrice internationale, cosmopolite même.
Complètement.
Alors, donc tu es allé voir Olivier, Green Border.
Oui. Oui, c'est une expérience. Tu fais bien de le souligner, c'est une expérience de cinéma, comme on dit, de manière un petit peu comme ça, pensif. Mais c'est vrai, et c'est aussi Agnieszka Holland, une technicienne hors pair, visiblement. Travail de l'image, du montage, la mise en scène, tout y est. C'est un noir et blanc, très, très fort en termes photographiques. C'est un noir et blanc qui a une couleur documentaire, un petit peu, par certains aspects, mais aussi une couleur de thriller, de film d'aventure, de film d'action. Et en même temps, le noir et blanc donne un effet pratiquement de film d'archives, d'époque. On se croit retourné à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, quand les Juifs, par exemple, ou les résistants voulaient fuir la Gestapo ou la police de Vichy, enfin, toutes les polices d'armée d'occupation. Enfin, ça. Bon, bref. Et donc, ça donne incontestablement, pour en avoir parlé avec des camarades qui l'ont vu, ça donne au film très grande force et un très grand effet de vérité. Et donc, comme tu le disais, c'est tant mieux, parce que c'est d'actualité, c'est vrai. Et d'ailleurs, parallèlement à son travail de cinéaste, elle a un travail pratiquement de journaliste, c'est-à-dire elle a été interrogée des gens, des migrants, des migrés, même des policiers polonais. Donc elle a enquêté, ce qui est dans le film est vrai.
Des gardiens. Oui. Tu peux rappeler juste en un mot.
Oui, pardon.
L'histoire.
Donc des gens originaires d'Afghanistan, la dame qu'on a entendu parler dans la bande-annonce, mais aussi une famille de Syriens, père, fils, épouse du fils, trois enfants, sont partis, donc ont fui leur pays pour des raisons vitales. Absolument vital. Les Syriens, parce qu'ils sont harcelés par Daesh. Et l'Afghanistan, parce qu'ils sont harcelés par les talibans. Arrivent à prendre un avion en Turquie pour la Biélorussie, avec la bénédiction de Poutine et de Loukachenko, biélorusse. Et Poutine et Loukachenko en font de ces migrants une arme contre l'UE, contre l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il s'agit de balancer ces gens, en particulier donc en Pologne, où ils sont refoulés violemment parce que l'Europe a peur de ces migrants. Curieusement, la Pologne va accueillir 2 millions d'Ukrainiens quand Poutine va leur faire la guerre, mais une famille de Syriens, c'est plus compliqué apparemment, je ne sais pas. Enfin bon, c'est comme ça. Et donc il y a un vrai propos politique, mais d'évidence, je dirais, c'est humanitaire. C'est pas un propos politique de parti, si vous voulez. C'est simplement l'humanité de Agnieszka Hollande qui parle, voilà, simplement. Voilà. Et donc, on assiste à ce terrible, excusez-moi, mais ping-pong entre la police biélorusse et les gardes frontières polonais qui se renvoient de part et d'autre de la frontière, des barbelés, extrêmement agressif, c'est pas les barbelés des prés à vaches de la Lorraine natale. C'est beaucoup plus efficace et c'est terrible d'ailleurs. Et donc, les autorités biélorusses et les autorités polonaises se renvoient ces migrants illégalement. Ils passent pas par un poste frontière, ils sont balancés d'un côté de la frontière à l'autre, dans les deux sens. Donc c'est juste infernal et il y a des activistes polonais qui veillent au grain, enfin qui essayent de faire ce qu'ils peuvent pour venir au secours de ces gens. Voilà, voilà le propos du film, voilà comment ça a été filmé, je l'ai dit. Et d'un point de vue cinématographique, ce qu'on a en plus, c'est une capacité de la réalisatrice à filmer d'une part des groupes, les gardes frontières, la police biélorusse, les activistes, les Polonais qui font leurs courses chez eux à deux pas, enfin à deux pas, à deux kilomètres de la frontière, etc. Donc on voit des groupes.
Elle multiplie les points de vue.
Elle multiplie les points de vue, exactement. Et à l'intérieur de ces groupes, on arrive à aller jusqu'aux personnes, aux couples et même aux personnes. Et on les voit, certains des personnages du film, on les voit tellement cadrés, serrés, qu'on les voit avec leurs problèmes de conscience ou pas, justement. C'est-à-dire, on les voit dans leur froideur terrible, et on les voit aussi dans leur détresse liée à l'incapacité de venir définitivement au secours de ces gens. C'est un drame, hein, c'est pas une tragédie, c'est un drame, mais c'est extrêmement bien fait. Ça a l'avantage, moi qui bosse un petit peu en ce moment pour la Journée internationale du vivre ensemble en paix, ça pose une vraie question. Si j'ai deux secondes, mais vraiment deux secondes. Aussi loin qu'on remonte dans l'histoire de l'humanité, quand un groupe humain a un besoin vital de franchir une frontière pour ce besoin vital, pour vivre, vous pouvez faire ce que vous voulez, il la franchira. Donc, au lieu de construire des murs idiots et très dispendieux, il vaudrait mieux utiliser la même somme d'argent à faire soit que les gens puissent rester chez eux, soit les accueillir de manière humaine. Voilà. Donc y a, voilà le message. On n'a jamais arrêté des peuples qui bougent. Jamais. Ou alors, si, par la guerre.
Message visiblement pas compris par beaucoup de... Notamment beaucoup de Polonais, puisque Agnieszka Hollande a reçu des menaces de mort en Pologne.
Mais il y a des Polonais qui aident puissamment ces gens. Donc tout est gris. Hein. C'est un noir et blanc où tout est gris. Enfin, où tout peut toujours devenir gris. C'est très compliqué. Hein. Il faut toujours se poser la question de ce qu'on ferait nous. Hein.
Et c'est très compliqué tant qu'on n'est pas face à cette situation. Ouais. On peut toujours présumer.
Mais... Ouais.
Ce film a aussi reçu le prix spécial du jury à la dernière Mostra de Venise. Ouais. Exactement, ouais. Green Border.
Non, c'est un très très bon film, indépendamment de toute question de message ou quoi. C'est un très très bon film, très fort. Hein.
Ouais, c'est filmé.
Deux heures et demie, mais tout à fait, comme on dit, à l'accoutumée, on ne les voit pas passer, ces deux heures et demie, vraiment pas. Il y a beaucoup d'action aussi, il y a beaucoup de réflexion, enfin voilà.
Green Border, donc de Agnieszka Holland, à voir à Aubenas cette semaine et à partir de la semaine prochaine à Priva. Alors on continue, on franchit on franchit un autre temps.
I have a star witness who needs protection. His name is Ross. Johnny Ross from Chicago.
I think our man's in the building and he was tipped where to find Ross. You take the ground floor, okay?
Got it.
Two men are killed, an officer in the hospital, a witness almost murdered. Now, I want to know what's happening and I want to know now. Let's hear it straight.
Ça y est, on l'entend démarrer. Bullitt de Peter Yates avec Steve McQueen, Robert Vaughan et Jacqueline Bisset, bien sûr. Nous sommes en 1968. 1968 où hier, où tu es allé voir, Mathieu, donc ce film dans le cadre des escales patrimoine du navire. Donc il y avait une petite présentation et un petit échange à l'issue de la projection. Mais ce film, je tiens tout de suite à dire, évidemment, qui est toujours visible sur les écrans du navire et qui sera projeté lundi et mardi.
C'est ça.
Alors,
exactement.
Mathieu.
Ben, j'ai eu la chance, on en parlait juste avant de commencer l'émission, que j'ai eu la chance, avec d'autres personnes, de découvrir ce film en salle. Parce qu'il faut bien savoir qu'en fait, cette année, c'est les 100 ans de la Warner Bros. Company. Et du coup, ils en ont profité pour donner un petit coup de polish sur leur film. Et il en fait partie, voilà. Et dans le cadre d'Escale Patrimoine, qui a été présenté par Cathy, en tout cas hier, on a pu découvrir ce film dans les meilleures conditions possibles. Hein, et c'est important parce que c'est un film qui est très sensoriel. C'est du cinéma comme malheureusement on en voit de moins en moins souvent, ou alors c'est un cinéma d'auteur art et essai qui s'assume, qui sort dans un contexte. Mais à l'époque, il faut savoir que c'était un blockbuster qui a énormément marché et qui était novateur sur plein de choses, hein, le nouvel Hollywood, etc. Et en fait, ça raconte l'histoire quand même de Frank Bullitt, qui est un lieutenant de police de San Francisco. Et en fait, il est chargé de protéger un certain gangster, Johnny Ross. Alors pourquoi il le protège? Parce que c'est une demande d'un politicien, Walter Chalmers, qui, cet homme, en fait, ce politicien, a besoin de ce gangster, car c'est un témoin important dans une affaire politique, en tout cas une affaire importante qui lui concerne. Malgré les précautions prises par Frank Bullitt, donc qui est joué par Steve McQueen, bien sûr, le gangster va être grièvement blessé. Et là, l'inspecteur Bullitt sent qu'il y a un petit problème et va un peu s'émanciper de ses supérieurs pour enquêter. C'est un film, comme en intro je le disais, c'est sensoriel parce que il emprunte plusieurs genres du cinéma. En tout cas, moi, c'est ce que je l'ai ressenti comme ça. Il y a du western, petit inspecteur avec ses bretelles et surtout ces moments de silence, de regard, de plans qui sont très arrêtés avec... on sent qu'il y a de la tension et en même temps, c'est un thriller, c'est un genre policier. Et aussi, film d'action, parce qu'on a quand même la course-poursuite à l'époque la plus longue, exactement, la plus longue jamais réalisée en Cadillac. Où la musique, d'ailleurs j'ai oublié le nom du compositeur, mais
Schifrin.
Voilà, merci. Musique, donc ce compositeur qui avait fait la musique de Mission Impossible en série, le fameux thème repris jusqu'à maintenant. Et en fait, la musique s'arrête et là on a droit à une course poursuite hors du temps, quoi. Ils ont bloqué San Francisco pendant 3 semaines. Cathy, je reprends beaucoup de propos que Cathy a dit lors de sa présentation, donc merci Cathy. Et du coup, c'est vraiment San Francisco qui a été bloqué 3 semaines pour 8 minutes de course poursuite. Et voilà, ça les vaut, quoi, parce que le temps est suspendu. On est accroché à son fauteuil. Et à un moment, il y a une caméra qui est dans l'habitacle de la voiture avec les fameuses rues de San Francisco qui descendent en escalier. les amortisseurs qui claquent, les bref, on y est. Et ça, j'ai vu des critiques sur l'avenir du cinéma dernièrement. Je rebondis juste sur ça en disant que ce film est l'exemple typique qu'avec moins de moyens et beaucoup plus d'authenticité, less is more. On arrive à faire des choses incroyables. Et voilà, on n'est pas, il y a pas de Marvel, il y a pas de Cadillac qui saute et qui vont faire des cabrioles de dingue, mais on est accroché quoi. On se dit ça y est, là on embarque. C'est assez, c'est très fort quoi. Ensuite, dans la mise en scène, on en parlait aussi avec Cathy hier soir après la diffusion, c'est que à la fois, bah, on sent que c'est les anciens codes du cinéma, mais c'est extrêmement novateur. On a beaucoup de transitions, de jeux de miroir, des reflets, où l'action va se passer non pas sur le plan qu'on voit, mais derrière nous, des fois flouté, des fois la mise au point va jouer sur premier plan, miroir, deuxième plan, c'est le pare-brise, troisième plan. Il y a beaucoup de choses voilà, qui sont faites, beaucoup de il y a beaucoup d'insistance sur filmer les détails des appareils de l'époque, ce qui est assez étonnant. C'est pour un film bah, qui s'inscrit dans, voilà, il tourne en 1968, on y est quoi, à peu près. Et on va avoir un très gros focus sur l'appareil, les appareils médicaux dans les salles d'opération, la cabine, la voiture, la jante de la voiture. C'est même pas de déplacement de produit, hein, c'est ça. Hein. D'ailleurs, il y a eu un désaccord avec Ford, donc les Cadillac, et la réalisation du film. Donc, on verra jamais le mot Ford dans le film. C'est pour dire, c'est juste sur l'intention de montrer et de laisser parler l'image au lieu des dialogues. C'est un film qui est quand même pas mal muet. Et ça fait du bien, en fait.
Et Jacqueline Bisset dans cette histoire?
Ah, eh ben...
comment on regarde... Je me suis posé la question...
Comme j'ai dit, c'est les anciens codes d'ici.
C'est ça. Comment on regarde un film comme ça aujourd'hui?
Ben, alors, si on parle du rôle de Jacqueline Bisset, c'est que elle est très effacée, quoi. On en parlait hier, elle est très effacée. Elle a une scène qui peut être intéressante et je trouve qu'elle est mal insérée même dans le film. La fameuse scène où il s'arrête au bord de route et il y a l'inspecteur derrière, il y a Bulit et elle qui vont parler.
Parce qu'elle parle.
Exactement.
Ah bah c'est déjà pas mal.
Elle a souvent peur et elle se pose beaucoup de questions, mais quand même elle parle. Oui.
Ah ouais, oui, Olivier, tu voulais réagir quand je disais elle parle. Non, mais oui. Je ne sais pas. Je pose une question.
J'ai failli me décrocher la tête à force de faire oui pendant que Mathieu parlait. Je suis pas d'accord sur tout, et en particulier sur le fait que c'est un film complet où il y a thriller, effectivement un peu western, thriller politique, policier, mais aussi presque comédie romantique quand même. Enfin, il y a une histoire d'amour. Et dans laquelle histoire, on n'est justement pas dans les codes romantiques, mais dans des codes beaucoup plus d'époque, 70. Mmh. Et quand même, l'héroïne jouée par Jacqueline Bisset lui propose quand même, lui met entre les mains un deal, si je me souviens bien. C'est-à-dire, s'il continue à consacrer toute sa vie à son rôle de flic, elle le laisse faire et elle va voir... Enfin,
c'est vrai, donc, mais c'est cette fameuse scène... Après, c'est un reproche, mais quand on commence à s'appuyer sur ce petit détail, c'est que le film, quand même, je rabaisse pas du tout la qualité du film, mais je trouve que c'est quelque chose qui aurait pu avoir plus de profondeur, en tout cas, une ligne rouge dans le film. Je trouve que c'est pas trop le cas. Voilà, la ligne rouge, je pense que le film est déjà bien occupé à bien traiter son histoire, voilà, et c'est déjà énorme, mais quand même, il y a exactement ce que tu dis, mais moi, je l'ai ressenti en mode le petit cheveu sur la soupe, parce que quand même, il y a ce côté-là qu'il ne faut pas oublier. Il est lancinant, quoi. Il est derrière, mais je ne l'ai pas ressenti quelque chose d'impactant.
Alors, c'est peut-être parce qu'on n'a pas le même âge, mais effectivement, moi, ce côté quand même très libre de Jacqueline Bisset m'avait frappé quand j'avais vu le film pour la première fois, il y a quelques années. Et c'est illustré par une chose dont on n'a pas parlé, c'est très important, c'est la Porsche 911 cabriolet jaune.
Oui, exactement. C'est vrai.
Ouais, qui est une petite merveille et qui est la voiture de Jacqueline Bisset, justement.
D'accord.
C'est intéressant.
D'ailleurs, dans cette scène, je suis obligé de rebondir.
Tu veux faire une analyse psychanalytique, peut-être?
De la Porsche?
Oui, non, de la Porsche de Jacqueline Bisset.
Je serais obligé de dire beaucoup de choses sur moi.
Mais, Mathieu.
Mais c'est vrai que cette scène, d'ailleurs, elle est très belle. Et l'image est forte, on voit son chéri à côté, elle qui va conduire et ensuite qui s'arrête, qui a besoin de parler, qui parle, mais sur le retour quand même, une fois qu'elle a fini de parler, c'est quand même lui qui conduit. Il a quand même pris sa place.
Accessoirement, Steve McQueen.
Voilà, autre époque.
Oui, bien sûr, mais enfin, bon, Steve McQueen a une certaine réputation à tenir, on est bien d'accord. Ouais. Et entre autres, une réputation de pilote, y compris de moto. C'est lui qui conduit la moto dans La Grande Évasion. Donc, voilà, il y a circonstances atténuantes pour, en ce qui concerne Peter Yates pour la réalisation de Mute Witness. Le témoin
j'ai pas vu ça.
Muet. Non, c'est le titre original de Witt.
Ah, d'accord, ok.
Mathieu, tu voulais ajouter ?
Oui, il y a quelque chose aussi qui est beaucoup plus subtil. En tout cas, ça, c'est c'est mon expérience de spectateur. C'est qu'il y a une certaine lecture dans ce film, souvent par des passages muets. On voit beaucoup l'inspecteur et les inspecteurs se laver les mains quand il y a du sang qui coule. Il y a des scènes qui sont très marquées sur, par exemple, quelqu'un se fait tirer, je pense à la fin du film à peu près, où il y a un cadavre du coup dans l'aéroport. L'insistance, le fait de rester dessus, regarder la réaction des gens avec pas encore une fois ce silence, en tout cas musical, niveau ambiance sonore. Le fait que la politique, l'homme regarde seulement ses intérêts politiques au détriment déjà de la confiance et du bien du pays, quoi, limite, hein, et des citoyens. Il y a beaucoup, je trouve qu'il y a une vision politique, judiciaire, à propos des forces de l'ordre, aussi de comment garder l'ordre, comment. Il y a une vision qui est, je trouve, assez révolutionnaire pour cette époque-là, qui est faite tout en subtilité. Peut-être qu'il y en a qui passent à côté, peut-être. En tout cas, je trouve que c'est là, quoi. Et avec la musique qui est très, en plus, très, comment, mince, qui est très, je trouve pas le mot, mais en tout cas, qui nous fait nous sentir un peu comme une musique à la Taxi Driver, vous voyez, ce film, un peu de film, cette musique blues qui est là avec le sax derrière. On sent qu'il y a un côté assez drame, quoi. Il y a un drame. Le drame, c'est peut-être pas l'histoire, c'est peut-être aussi le monde dans lequel on vit, quoi. Et j'ai trouvé ça assez fort, en tout cas. Voilà.
Niveau musique, ouais, de jazz de Schifrin, c'est quand même de haute volée. Et il y a une scène, si mes souvenirs sont bons, dans un restaurant ou un bar où il y a des gens qui jouent et c'est le jazz un peu à la Charlie Bird avec flûte. C'est du jazz limite Woodstock. C'est passionnant pour ça aussi. Je suis d'accord avec Mathieu sur le regard politique. Qui est en fait d'époque, hein, qui c'est les années 60-70, qui est révolutionnaire. Il pose vraiment des questions sur exactement ce que tu dis, hein, sur le maintien de l'ordre, à quel prix, etc. C'est très intéressant. Ouais.
Bullitt, donc, qui est à voir encore lundi et mardi au navire, au cinéma. Et c'est vrai que c'est une vraie expérience de revoir, d'avoir la chance de revoir ces films au cinéma. Allez, un petit dernier pour la route, un petit dernier jaguar.
C'est un bébé jaguar. Je vais t'appeler Hope. Je serai là pour te défendre. Hope. Je me disais, je pouvais ne pas aller en cours.
Auton, tu vas à l'école et c'est tout.
Je vais demander à un élève d'aller chercher les grenouilles au labo.
Je vais vomir.
Qu'est-ce que tu fais ?
Je suis en train d'appeler la SPA. C'est quoi ça ?
Ça, c'est rien, ça.
Cher Doc, la situation s'aggrave de jour en jour. Il ne reste qu'un seul et unique jaguar dans la région.
On doit aller la sauver !
Ça fait 8 ans qu'on est
là ! Non, tu vois
on
pas.
On n'ira nulle part.
Non.
On entend les rires de mes acolytes à l'écoute de cette bande-annonce que j'ai d'ailleurs laissée en français puisque c'est comme ça que les enfants vont aller le voir, quoi. Les enfants, les ados.
Voilà. Donc, les enfants.
Les enfants.
J'espère, oui.
Oui. Alors, oui. Là, c'est à partir de 8 ans, mais peut-être que... C'est à partir et jusqu'à 8 ans, peut-être.
Oui, c'est ça. Voilà.
Ok, très bien.
À 8 ans, le jour de ton anniversaire.
Le jour de ton anniversaire, voilà.
Tu vas le voir.
Il faut espérer que... Ouais,
c'est bien.
Tu vois. Donc, film pardon, de Gilles Demestre,
oui, qui est à l'affiche. Et de sa compagne Prune, qui ne compte pas pour rien.
Et de sa compagne Prune, qui est au scénario. C'est ça.
Voilà, c'est ça.
Exactement. Évidemment, elle ne compte pas pour rien. Oui. Gilles Demestre, à qui l'on doit Mia et le lion blanc ou récent Le loup et le lion.
Oui, c'est à chaque fois, c'est le même, en fait.
Alors, une question me brûle les lèvres. Est-ce que c'est cucuricatural ou est-ce que c'est un film utile, comme dirait René, qui n'est pas là parmi nous aujourd'hui?
Bah, c'est vrai que j'ai un peu pensé à René quand je me demandais ce que j'allais pouvoir dire. Alors, d'un point de vue cinématographique, on ne va pas s'étendre, comme le réalisateur lui-même s'étend, sur le même thème, toujours. Donc, je ne m'étends pas. Ceci dit, en effet, c'est un film qui est utile dans la mesure où il rappelle un certain nombre de causes justes. La préservation de la forêt équatoriale, la protection de certaines espèces animales soumises au trafic et qui sont aussi les victimes collatérales de la déforestation. Donc on a là un vrai propos écologique légitime, ô combien légitime bien sûr. C'est traité, alors moi je trouve que c'est un peu dommage de traiter ça dans la foulée parce que c'est aussi, il y a aussi un propos autour du respect dû aux peuples autochtones, mais alors qu'ils sont mis un petit peu en compagnie des animaux et des arbres, quoi, hein. On a un peu cette impression-là qu'on est dans un musée d'histoire naturelle et on vous, comme à New York, le musée d'histoire naturelle où on vous montre les animaux, les plantes et les gens, les Indiens d'Amérique du Nord par exemple. Donc là, c'est les Indiens du Mexique.
Mais ça pourrait être très justement très contemporain comme manière de penser les vivants, le vivant, oui, sans forcément classifier,
voilà,
oui, entre...
Voilà, c'est ça, de l'antispécisme. Donc, on va mettre ça sur le compte de l'antispécisme et dire que peut-être c'est intelligent, quoique. Alors, ensuite, oui, parce qu'il faut se méfier, parce qu'entre l'antispécisme et l'anti-humanisme, il n'y a qu'un pas facile à franchir. Et que le réalisateur ne franchit pas, on a quand même un vrai respect humain. Une vraie réflexion sur les idéaux, et justement on en parlait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait pour coller quand même un tout petit peu dans nos actes avec les idéaux qu'on proclame. Et donc ça fait jamais de mal de recevoir une petite piqûre de rappel, qu'est-ce que tu fais toi, effectivement. Alors là, il y a une héroïne, un personnage du film qui dit ben, « moi ce que je fais c'est que j'enseigne ». Effectivement, elle enseigne la biologie au lycée, et par là, elle promeut la vie, d'une certaine manière, c'est vrai. Donc, j'ai pris ça pour mon compte. Je me suis dit, moi, j'ai 30 ans d'enseignement de la philosophie, j'ai bien dû faire quelque chose pour la vérité, n'est-ce pas ? Enfin bon, et pas sûr. Et alors, donc, il y a des... Et une réflexion qui est un petit peu en filigrane, mais que le film m'a fait faire, et qui est que, dans notre vie personnelle, plus on a de moyens, c'est-à-dire plus on vieillit, plus on grandit, plus on avance dans sa carrière professionnelle, donc plus on a de moyens... moins on les utilise pour satisfaire nos idéaux d'enfant. Mmh. C'est très curieux.
Ouais, c'est très beau, ça.
Hein, ouais. Je dis pas que la réflexion est dans le film, mais elle te fait faire cette réflexion, parce que la gamine est super proactive, et elle est entourée d'adultes qui auraient beaucoup plus les moyens qu'elle de faire les choses, hein, et qui ne font honnêtement pas grand-chose. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant, et je pense que, puisqu'on parle souvent de films jeunesse à Cinéascope, je pense que de ce point de vue-là, c'est un film qui est aussi utile et relativement bon pour les enfants. Parce qu'effectivement, un enfant peut peut-être s'identifier à l'héroïne et se dire « moi aussi, je veux faire quelque chose pour des causes qui sont incontestablement justes ». Donc de ce point de vue-là, j'aurais pas du tout les réticences que j'avais par rapport à Wish ou par rapport à d'autres, même Léo.
Qui est encore à l'affiche.
Oui, enfin, de
qui
moins en moins.
À l'affiche,
heureusement, il a l'air de sombrer dans la programmation un petit peu. Mais disons que j'ai évidemment pas du tout la même réticence par rapport au dernier Jaguar, qui reste un beau film. Et puis d'ailleurs, des très belles images de l'animal en particulier, qui est quand même somptueux, quoi.
Bon, et... C'est une adolescente, pour une fois. C'est l'histoire.
Oui.
C'est,
oui.
Voilà. C'est un film de son époque aussi.
On la voit enfant puis adolescente. Ça aussi, c'est intéressant.
Le dernier Jaguar, donc, de Gilles Demestre, qui est à voir au Navire, à Aubenas, à Rosières et à Ruons. Voilà pour les films à l'affiche. Deux rappels, voire même un petit peu plus sur l'agenda du cinéma. Ce soir à 20h au Navire, il y a Yala Gaza de Roland Nurier qui sera présenté par l'association France-Palestine Solidarité en présence de Pierre Stamboul qui est porte-parole de l'Union juive française pour la paix. Et voilà, la caméra est posée en 2022 dans Gaza. donc dans cette petite bande avant les événements d'octobre dernier, du 7 octobre. Où 2 millions d'habitants sont là, essaient de vivre le plus normalement possible malgré les bombardements réguliers, malgré le blocus total qui est mis en place depuis 2007. Ce sera l'occasion d'échanger à ce sujet, c'est ce soir à 20h au navire. Le navire qui programme aussi mercredi, à l'initiative du PCF, l'armée du crime de Robert Guédiguian, qui sera donc. Parlons du film, Olivier. Oui. L'armée du crime de Robert Guédiguian, à l'occasion de l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian et de Missak, tout simplement.
Oui.
Voilà. Quoi d'autre? Si, dans la tournée, juste un mot, dans la tournée, par la maison de l'image qui circule dans les villages, eh bien, ce sera Lussas ce soir à 20h30 pour Bonnard, Pierre et Marthe. Puis aussi Voyage au pôle sud à Tueil, à la salle Vesprade à 20h30. Voilà, ce Cinémascope, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs.
Merci, Sophie.
Merci.
Merci Sylvain. Bon week-end. Aussi, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Cinémascope. D'ici là, bonne toile.
Voilà, maintenant on met la caméra au milieu. Voilà.